écoutez le studio Kalungu, il est 17h, tout de suite le journal en français avec Rafika Taher. À la une dans cette édition du 27 décembre 2021, après 3 jours de compétition pour le sabre national, quelques amateurs de lutte traditionnelle apprécient le déroulement de cette 42e édition. À suivre leur réaction. Suite à la fermeture des stations d'essence dans des localités de Tillabéri, des orpailleurs du site orifère de Mbanga, de la commune de Namaro, évoquent l'impact de cette décision sur leurs activités. Selon la loi au Niger, les hautes autorités doivent déclarer leurs biens. On en parle dans la partie magazine de ce soir. Débutons cette édition avec une nécrologie. Le boxeur nigérien médaillé olympique Isaac Dabore s'est éteint samedi à Niamey à l'âge de 81 ans. Isaac Dabore a été pendant ses années de gloire un boxeur émérite qui a su porter haut les couleurs nationales sur les rings et les podiums, témoigne le vice-président du comité olympique sportif national du Niger, Seydou Hashimou. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Isaac Dabore, c'était un grand sportif nigérien. C'est une icône. C'est le premier médaillé olympique de la République du Niger. Et cela s'est passé en 72. C'était une fierté pour tout le Niger à l'époque d'avoir la médaille olympique à l'occasion des Jeux olympiques d'Allemagne en 1972. Et depuis là, c'est une référence au Niger, en tout cas en matière de sport. Et c'est quelqu'un de socialement de très courtois. Il a toujours fait don de soi. Il a toujours voulu tirer, en tout cas, les jeunes Nigériens vers l'excellence. Et il a participé à tous les événements sportifs et sociaux pour le pays. Je garde l'image d'un homme sage qui a vraiment œuvré pour le développement du Niger.
La 42e édition du sabre national bat son plein à l'arène de lutte de Niamey. Après 3 jours de combat entre les lutteurs des 8 régions du Niger, comment les citoyens apprécient le déroulement de la lutte traditionnelle de cette année? Écoutons quelques avis recueillis de la capitale par Salamatou Kadri.
Nous souhaitons que cette année, la lutte se déroule en toute transparence, qu'on mette le Niger et les Nigériens en avant, car c'est le sport le plus aimé et régulièrement suivi au Niger. Que personne ne soit lésé dans les prises de décision. C'est un joyau que nous avons hérité, que nous aimons et apprécié même à l'étranger.
Il faut la lutte sérieusement. On est très content. La manière dont elle se déroule, nous, on ne voit pas d'erreur. On ne peut pas dire voilà celui qui va gagner ou celui qui va perdre. Mais tout celui qui gagne, c'est le pays qui gagne. Dieu merci. Moi, je suis de la région de Dosso, donc je supporte Dosso. C'est une fierté pour nous si tout se termine dans la paix.
Qu'ils s'en tiennent aux anciennes valeurs de la lutte, car c'est depuis le temps de Kunji que nous suivons cette lutte. Mais ces derniers temps, nous avons constaté une certaine mainmise dont nous demandons aux auteurs d'arrêter.
À l'issue des combats par équipe de cette 3e journée de lutte traditionnelle, sur les 80 lutteurs en lice, 19 sont encore invaincus. À la mi-journée aujourd'hui, Niamey compte 5 lutteurs invaincus, Dosso 4, Tawa 3, Agadez 2, Maradi 2, Tillabéri 2, Difa 1 et Zender aucun. Cet après-midi, l'équipe de Niamey affrontera celle d'Agadez et Difa sera face à Dosso. Comme annoncé dans les titres, les activités tournent au ralenti sur le site orifère de Mbanga, commune de Namaro, dans la région de Tillabéri. Cela fait suite à la fermeture des stations-service pour des raisons sécuritaires dans plusieurs localités de la région sur décision du gouvernorat. Comment vivent les orpailleurs de la zone? Issaka Karim a recueilli quelques avis.
Nous sommes ici à Mbanga avec comme activité principale l'orpaillage. Mais l'essentiel de notre travail est basé sur l'essence. Et même ces 2 litres que vous voyez coûtent 1750 francs l'unité au marché noir. Aussi, nous souhaitons que le gouvernement nous trouve une solution à ces problèmes. Car même nos déplacements sont maintenant limités. Sans essence, tout est bloqué.
Moi, je suis le vendeur d'essence et la station qui nous approvisionne a été fermée. Actuellement, nous vendons dans le stock restant à raison de 1500 le litre. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en rupture. Ici, les orpailleurs utilisent beaucoup de groupes à essence et des machines à gasoil pour moudre les pierres. Il n'y a pas de gasoil aussi. Nous ne savons plus à quel sens se vouer.
Le gouverneur de la région de Maradi s'est rendu la semaine dernière sur le site d'orpaillage de Dain Issa pour constater le départ des orpailleurs dont la date butoir est dépassée. À ce jour, quelle situation prévaut sur le site de traitement de l'or à Dain Issa? Les détails avec Aboubakar Cheibou, le gouverneur de Maradi, au micro de Mohamed Maman.
Les orpailleurs, d'une manière générale, ils ont quitté le terrain, mais il reste les hangars et les machines installées. Et nous avons donné des instructions à l'ensemble des orpailleurs pour qu'ils démantèlent leurs équipements. Et là où je vous parle, les orpailleurs sont en train de démanteler l'ensemble de leurs machines. Mais revenant, nous avons constaté qu'il y avait un nouveau site que certains orpailleurs, vraiment que je peux appeler indisciplinés, ont cherché à installer. Et nous avons donné des instructions pour le démantèlement de ce nouveau site. Et devant la résistance de ces miniers, nous avons envoyé des éléments de FDS qui les ont arrêtés. Ils ont enlevé l'ensemble des machines. Et à l'heure où je vous parle, la situation est sous contrôle. Nous avons des rumeurs qu'il y a des gens qui tentent toujours d'extraire le minerai. Et là-dessus, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour empêcher ces tentatives.
Des vieilles munitions ont été déterrées par un jeune maçon alors qu'il travaillait dans une maison du 3e arrondissement communal de Zender. Selon le maire, ces munitions dateraient de longtemps, très longtemps. Mais la brigade de la gendarmerie est à pied d'œuvre pour effectuer d'autres investigations autour de cette cache d'armes, précise Abdou Kabirou, maire de l'arrondissement communal 3 de Zender. Il est au micro de Mustapha Mamansani.
Il y a un enfant qui creusait, qui a pu enlever ça. Lui, il pensait que ce sont des fers pour amener ça là où il vendait les fers. Mais la population n'a qu'à se calmer, vraiment, parce que ces munitions-là sont là depuis des années. Ils sont là, on a pu les déterrer. Mais il y aura une mission qui va venir encore déterrer la maison pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Il y a le service de la gendarmerie. Ils sont là, ils sont venus rentrer pour voir ce qu'ils ont trouvé avec l'enfant qui a pu déterrer ça. Ils ont ramassé ça.
Le centre de santé intégré CSI Koufan de la ville de Tawa a pris feu dimanche dans la matinée. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Néanmoins, le maire de la commune 2, Mahamadou Idi, fait état d'importants dégâts matériels enregistrés dans le stock de médicaments du CSI. On l'écoute au micro d'Aoussouk.
Bonjour Mangani. Nous sommes venus constater de visu, en tant que technicien en électricité, l'incendie qui s'est déclaré dans la salle de perception au niveau du guichet de paiement. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, puisque vous savez, au niveau de cette salle de perception, c'est là où sont logés les reçus et les produits qui sont destinés au CSI. Tout est brûlé, on ne peut pas laisser le CSI sans électricité. Obligatoirement, il est impératif de rétablir l'électricité et le plafond endommagé le plus rapidement possible, étant donné que les malades se présentent pour leurs soins. Cela ne peut pas attendre. Par rapport aux produits, la mairie et les partenaires qui œuvrent dans le domaine de la santé doivent voir comment intervenir pour ainsi reconstituer le stock des terroriers pour que les choses reprennent leur cours.
Ouverture ce matin à Niamey de la session du mois de décembre 2021 du Conseil supérieur de la communication. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la synthèse de la mission effectuée à l'intérieur du pays. Suivez un extrait du discours du président du CSC, Dr Kabir Sani, au micro de Maman Ada.
Le Conseil supérieur de la communication a déployé 4 missions sur l'ensemble du territoire national, conformément à ses attributions de contrôler le respect strict des normes et conditions techniques de fonctionnement des médias bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation. Ces normes se rapportent au respect des grilles de programme, la tenue des cahiers de charges, des cahiers d'antenne, le respect des balises de signalisation, des paratonnerres, des tailles d'antenne, des rayons de couverture, entre autres. Une centaine de médias ont été contrôlés et de nombreuses défaillances ont été décelées. Outre les rapports de mission de contrôle de conformité technique des médias effectués au début du mois de novembre et sur toute l'étendue du territoire national, nous allons examiner et adopter les rapports des commissions d'instruction. Il s'agit des rapports de la commission éthique, déontologie et carte de presse et de la commission suivi de cahiers de charges, accès équitable et publicité.
À marquant l'envol de la musique moderne nigérienne, selon le président de l'Association nigérienne des artistes, compositeurs, interprètes de la musique moderne Anassim, le manque d'accompagnement des artistes pour renforcer leurs capacités et l'absence de vocation de ces derniers pourraient expliquer la situation de la musique moderne nigérienne. Oumar Issoufou, alias Feno, joint par Mokhtar Hamadou, explique.
Le réel problème de la musique nigérienne, c'est vraiment le refus de l'apprentissage. C'est-à-dire que la musique est une école. Si tu veux bien faire la musique, si tu veux faire une musique avec laquelle tu es en synchro, avec laquelle tu parles et qui te comprend, il faut faire l'école de la musique. Quand tu ne fais pas l'école de la musique, tu ne peux pas créer. Soit tu fais l'école de la musique, soit tu écoutes beaucoup de la musique traditionnelle ou toutes les musiques du monde. Parce que plus tu écoutes, quand tu es dedans, tu peux avoir des inspirations. Tout un chacun artiste dans la vie. Maintenant, c'est soit tu acceptes de l'activer en toi ou tu refuses. Parce que c'est comme toi, tu apprends à calculer 5 plus 5 égale 10, 5 fois 5 égale 25, ainsi de suite. Et tu te lèves un jour, tu dis tu vas faire des mathématiques. C'est pas possible. Donc la musique, elle est comme ça. Tant qu'on n'arrive pas à faire notre propre introspection, on ne peut pas arriver à satisfaire la musique nigérienne.
Bienvenue dans le magazine de cette édition. Pour des raisons de bonne gouvernance et de transparence au Niger, la loi et des directives de la CEDEAO et de l'UEMOA obligent les hautes autorités à déclarer leurs biens ou leur patrimoine dès leur prise de fonction. Quels sont les biens à déclarer? Élément de réponse avec Amadou Hassan Diallo, juriste et directeur exécutif de l'ONG Tri Niger, interrogé par Balkissa Hamidou.
En matière de bonne gouvernance, il est recommandé à une certaine catégorie de personnes, les hautes autorités, de déclarer leurs biens. Qu'est-ce qu'on entend par déclaration de biens ou de patrimoine?
Les exigences de la bonne gouvernance et aussi un certain nombre d'exigences communautaires, puisque nos États sont aussi dans un espace communautaire comme l'UEMOA et la CEDEAO, où donc des directives sont prises afin justement de créer les conditions de gestion transparente et redevable de nos gouvernements. Que cette notion de déclaration de biens a été instituée. Il faut rappeler que la déclaration de biens, en fait, englobe tous les revenus, tous les biens dont dispose une personnalité qui aspire ou qui dirige. La loi 035-2020, portant sur la Cour des comptes, et la loi 028 de la même année, précisent les personnalités soumises à la déclaration de biens dans notre pays.
Et qui sont les personnes habilitées à déclarer leur patrimoine?
D'abord le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, tous les membres du gouvernement. Ça, c'est contenu dans la loi 035-2020 de la Cour des comptes. Les députés sont soumis à la déclaration de biens. Mais les exigences de redevabilité ont amené l'État à étendre cette exigence de déclaration de biens à travers la loi 028 à beaucoup d'autres personnalités, notamment le chef d'état-major général des forces armées, ses adjoints, le chef d'état-major de l'armée de terre et de l'armée de l'air, les recteurs des universités publiques, tous les DAF, les DRFM, tous les maires, tous les secrétaires généraux des mairies, tous les magistrats de l'ordre judiciaire, les préfets, les gouverneurs, tous sont assujettis à la déclaration de biens. L'idée, c'est que tous ceux qui occupent une fonction publique, où ils peuvent être en contact avec des deniers publics, qui peuvent être en contact à un conflit d'intérêts, sont soumis à la déclaration de biens.
Et quand doit-on déclarer ces biens et pourquoi?
Alors, donc, c'est les autorités politiques, c'est l'acte de nomination. Le président de la République doit déclarer, dans le mois de sa prise de fonction, ses biens. Et bien évidemment, toutes les autres personnalités qui entrent au gouvernement, c'est assez important. À la nomination, on doit déclarer. C'est bien. Pour les fonctionnaires, vous aurez compris, pour les magistrats par exemple, ce sont des fonctionnaires. Et eux, ils déclarent les biens. Le processus n'a pas commencé. Ça commencera seulement en 2022, plaise à Dieu. Mais c'est chaque année qu'ils mettent à jour leur déclaration de biens, puisqu'on suppose qu'en une année, ils ont eu le temps d'avoir d'autres ressources, d'avoir d'autres revenus qui doivent être déclarés.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal entame à chaque avec Tajissir Ali. Studio
Kalangu. À Difa.
Alternative FM 99.4 MHz. À Zender.
Geskia FM 89.5 MHz. À Maradi.
Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto.
Bonferé Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.